www.libradio.org. La radio qui entretient le suspense.
Voilà, donc nous sommes réunis ici à la Bibliothèque du Peuple, intitulée par ailleurs à André Boziger, pour justement annoncer le vernissage de la réédition du livre d'André Boziger, Souvenir d'un rebelle. Alors, la réédition s'appelle précisément Souvenir d'un rebelle, 60 ans de lutte d'un libertaire jurassien. Nous avons parmi nous trois compagnons de route d'André Boziger, pourrait-on dire. À différents degrés, vous l'avez rencontré et connu. Vous allez donc nous en dire quelques mots. Et peut-être commencerions-nous par un tour de table rapide pour que vous vous présentiez vous-même et énonciez les conditions de votre rencontre avec André Boziger. Juste après, peut-être que je fasse un petit mot d'introduction concernant justement André Boziger. Alors, en quelques mots, né le 22 juillet 1913 à Perfitte, dans le Jura, décédé à Genève le 13 avril 2005 à l'âge vénérable de 91 ans. Il fut un syndicaliste anarchiste suisse, militant de la Ligue d'action du bâtiment à Genève. Il collabore au Réveil anarchiste, au Centre international de recherche sur l'anarchisme de Lausanne, plus communément appelé le CIRA. Ouvrier du bâtiment, il adhère à la Ligue d'action du bâtiment où il se lie d'amitié avec les anarchistes Luigi Bertoni, rédacteur du Réveil anarchiste, et Lucien Tronchet. Bien entendu, la Ligue d'action du bâtiment pratiquait activement le sabotage, l'action directe ainsi que l'aide aux chômeurs expulsés de leur logement. Il milite également dans le groupe anarchiste de Genève et participe aux activités de la libre pensée. Le 9 novembre 1932, c'est une date funeste pour les Genevois en tout cas, et pour la condition humaine en général, bien entendu, il prend part à une manifestation réunissant des milliers de personnes, peut-être 10 000, pour protester contre la tenue d'un meeting fasciste organisé par Georges Ultramar, chantre de l'extrême droite à Genève. Fallait-il le rappeler, la manifestation se termine tragiquement. L'armée chargée de renforcer la police tire sur la foule. Le bilan officiel fait état de 13 personnes tuées, 65 blessés, bien plus d'ailleurs qui ne se sont jamais déclarés. On sait que les blessés, il y en avait beaucoup plus. Parmi eux, Melchior Alemán, donc le meilleur ami d'André Boziger, s'effondre mortellement touché. Voici encore, et pour en terminer, quelques péripéties qui ont jalonné le cheminement d'André Boziger. Alors, il connaîtra la prison, condamné pour insoumission à l'armée après ce tragique 9 novembre 32. Il y purge une peine de 2 ans. Pendant la guerre d'Espagne, il procure des armes aux compagnons de la CNT et assure la prise en charge d'orphelins. Puis, lors de la Seconde Guerre mondiale, il procure du ravitaillement aux maquis de la résistance française, ainsi que notamment des explosifs qu'il dérobe. C'est assez astucieux la manière dont il dérobe ça en Suisse. En 1957, il participe à la fondation du Centre international de recherche sur l'anarchisme, qu'on a cité tout à l'heure, le CIRA, à l'époque à Genève. Et un ouvrage, du coup, on retrace le parcours, ouvrage qui nous réunit ici ce soir. L'ouvrage, c'est donc « Souvenir d'un rebelle » qui était paru d'abord aux éditions Canva en 1992 et qui est réédité aujourd'hui sous le titre « Souvenir d'un rebelle, 60 ans de lutte d'un libertaire jurassien, Genevois d'adoption », avec la collaboration d'Alexandre Skirda, texte présenté par Marianne Henkel et Ariane Mieville. Les dessins sont de Jean-Pierre Ducret et il est paru aux ateliers de création libertaire donc en 2017. Et cet ouvrage, ce vernissage, sera donc à découvrir, le disions-nous, lors de la causerie du Lissignol 8, le vendredi 10 mars prochain, dès 18h30, entrée libre. C'est ouvert à toutes et à tous, bien entendu. Et au programme de cette soirée, que l'on rappellera en fin d'entretien, à 18h30, soupe, pain et fromage. À 19h, un documentaire, mais vous allez, je crois, me démentir, parce que ce ne sera pas le documentaire de Bernard Bessa, écoutez André Boziger. Mais Ricardo, tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure. Hein. Et ensuite, la présentation et discussion. Les extraits que l'on va passer ce soir de la voix d'André Boziger sont picorés dans le film justement de Bernard Bessa, que l'on remercie, puisque nous avions pu d'ores et déjà projeter son film avec son accord. Bernard Bessa, qui par ailleurs a une chronique dans Radio Libertaire, donc on en profite pour saluer toutes les radios libres et a fortiori anarchistes, notamment aussi Radio Canu à Lyon, qui connaît un moment délicat avec une répression concernant des gens de l'équipe de Radio Canu. Donc, écoutez, André Boziger est sorti en 1993. Et puis, pour la playlist du soir, on va d'ailleurs tout de suite commencer avec un petit son avant que nos trois invités se présentent. Eh bien, c'est les camarades, c'est la famille, c'est Quatrième Dimension. On fait un grand coucou à Nelio, bien sûr. C'est Rootscore, Muchach, Kekos, toute la bande qui sont pour nous, en quelque sorte, les héritiers de cette pensée anarchiste, dont on va immédiatement écouter un titre, c'est Quatrième Dimension, c'est Nelio. Et puis, on écoute ça tout de suite. Et puis, juste après, eh bien, on fera un tour de table pour que vous vous présentiez. Est-ce que ça va pour vous ? Bienvenue, les invités. On y va avec Nelio, Quatrième Dimension, c'est parti.
L'histoire commence, comme souvent les histoires de ce genre.
Il nous faut adresser un message des plus clairs à la population de ce pays. Ce message doit être imprimé dans chaque journal, diffusé par chaque radio, vu sur chaque télévision. Ce message doit retentir. La sécurité de cette nation repose sur une complète et totale soumission. Chaque manifestant, chaque instigateur ou agitateur sera châtié pour l'exemple. Pour l'exemple.
La manifestation la plus terrible à laquelle on assiste depuis des années.
Quatrième dimension, Z4M collectif, marque ça dans ton crâne.
C'est la révolution, les oubliés d'hier renversent le pouvoir.
J'entends monter la clameur,
c'est la révolution.
J'entends monter la clameur,
renverse le pouvoir.
J'entends monter la clameur quand les forces de l'ordre chargent. J'entends monter la clameur,
c'est la révolution, les oubliés d'hier renversent le pouvoir.
J'entends monter la clameur,
c'est la révolution,
la justice vient d'en bas comme la sève de l'or. J'entends monter la clameur,
c'est la révolution, les oubliés d'hier renversent le pouvoir.
J'entends monter la clameur quand les forces de l'ordre chargent.
Le souffle de la révolte résonne.
C'est un slam mutine.
Le souffle de la révolte résonne.
Y'a la démocratie et y'a ce qui se passe ici.
Le souffle de la révolte résonne.
La justice vient d'en bas comme la sève de l'or.
Le souffle de la révolte résonne.
Se déchaîne dans l'atmosphère lourde, saturée de gaz lacrymogène.
Le peuple crie sa colère.
Vois un pavé, je mets un peu les feux aux poudrières.
Attention à toute la neige dans une atmosphère électrique.
Ça tire, ça fume du CRS.
J'entends monter la clameur quand les forces de l'ordre chargent.
L'esclave qui n'est pas capable d'être.
Libre Radio, la radio qui bombe le torse, qui dresse l'antenne et qui émet. Les phéromones, www.libradio.org.
À la technique, c'est donc Igor qui nous a mis le jingle Superman. Alors André Beziker, Superman ou pas, on en discutera tout à l'heure. Mais j'ai bien compris ton message, la technique. Alors, bienvenue à vous. Je ne sais pas par qui nous allons commencer, mais qui veut commencer de se présenter rapidement en quelques mots et de se situer par rapport à André Beziker. Ivar.
Oui, alors j'ai connu André Beziker en 1968, en tout cas. Parce que j'habitais à Lausanne en ce moment-là, et quand on descendait à Lausanne, on logeait chez lui. Et j'ai d'excellents souvenirs, évidemment, de lui. Ben, c'était quelqu'un sur qui on pouvait toujours compter. Donc, il nous a suivis dans un peu toutes les histoires, les squats, le squat du prieuré. Donc, par sa capacité, donc il était entrepreneur maçon, il nous donnait des coups de main, il nous montrait comment travailler. Il avait refait le parquet d'ailleurs de la maison du Cèdre qui était en lutte avec le mouvement des habitants des eaux vives. Et donc il avait beaucoup d'expérience aussi. En plus des soutiens que tu avais cités tout à l'heure, on peut aussi signaler qu'il avait soutenu les militants du Front Libération Algérien.
Absolument, aussi, tout à fait.
Il avait aidé des déserteurs algériens, des Algériens qui fuyaient des camps.
Déserteurs français aussi.
Des insoumis français.
C'est vrai que je ne sais pas pourquoi j'ai totalement omis, et c'est bien que tu immédiatement l'aies replacé, concernant l'Algérie, où là, effectivement, il était également très actif.
Et c'était un grand espoir aussi pour eux. Il y avait un groupe dans le Jura. Du communiste libertaire, enfin de Et qui donc c'était un, enfin ils étaient sur l'histoire de l'Algérie avec un espoir d'autogestion. C'était un peu une lutte.
C'était l'équipe de TAC, voilà, tendance anarchiste communiste avec Guy Bourgeois de Macron.
Guy Bourgeois là, c'est ça.
Ah bah, très bien. Alors merci en tout cas Yvan. Ricardo, voudrais-tu à ton tour te présenter brièvement?
Je suis à Genève depuis 81, donc j'ai connu, j'ai connu André un peu avant. Je ne saurais pas dire quand, voilà. Dire que je l'ai bien connu, parce qu'on me dit tu l'as bien connu, c'est pas vraiment ça. Je l'ai beaucoup croisé, beaucoup croisé. Bien connu, ce serait un peu prétentieux, mais enfin voilà.
En quelles occasions tu dis que tu l'as beaucoup croisé? C'était des occasions chaque fois un petit peu spéciales ou...
comme nous trois, hein, donc dans les manifs et beaucoup dans les réunions du mouvement libertaire. Nous avions à l'époque un groupe qui s'appelait la CARG. Ça ressemble un peu à un cri de colère.
Qu'est-ce que ça désigne comme acronyme?
Coordination anarchiste de la région genevoise. Voilà, ça a vécu dans les années
90.
Ok, très bien. Et alors Daniel?
Moi, je l'ai rencontré la première fois, je crois que c'est la première fois où je suis venu à Genève, et puis je suis tombé chez Ivar au CRAC, au Centre de Recherche d'Action Communautaire, boulevard Carvotte. Et puis, c'était les copains de... Moi, j'étais sur Lyon, donc c'était les copains Anard de Lyon qui m'avaient donné le contact. Et puis... Ivar, il me dit, ce soir, on se réunit, il y a un petit groupe anard, tout ça. Puis en fait, on s'est retrouvés à trois, il y avait André Bezigre, Ivar et moi. Donc j'ai vu le personnage. Et puis là, je crois qu'il a passé la moitié de la réunion à gueuler parce qu'il était en pétard, quand je sais pas quoi. Et j'ai vu un peu le bonhomme, quoi. C'était impressionnant.
Donc quand on dit souvenir d'un rebelle, effectivement, le qualificatif rebelle correspond bien. Personnalité du...
Et après, donc, je l'ai croisé... je me rappelle d'un moment, il y avait la fête des acharnistes dans les Franches-Montagnes, au Bouéchet. Donc, c'était organisé par les copains jurassiens. Et il y avait de la musique, aussi des débats. Enfin, c'était la fête, quoi. Et à un moment, dans les débats... on parlait de l'alternative, parce qu'à l'époque, c'était quand même le mouvement alternatif, c'était quand même quelque chose qui se développait. Et puis lui, il commence à dire, c'est des conneries. Et puis, moi, comme je défendais un peu parce que pour moi, le côté alternatif, c'était pas côté Baba Cool, c'était l'expérience à Lyon, donc un truc un peu plus construit. Et lui dit non, l'alternative, c'est... Enfin, lui il m'a traité de petit con, et puis moi je l'ai traité de vieux con. Puis après, on a bu il m'a payé un café arrosé, puis
vous avez pu commencer enfin à discuter pour de vrai. Ce que je vous propose, c'est que je vais déjà pour commencer cet entretien, pour le lancer pleinement, c'est d'écouter un petit peu la voix d'André Bezigre, deux petites minutes comme ça. Et puis, donc, ces extraits, comme j'ai dit, ont été picorés sur le film, dans le film de Bernard Bessa. Et puis, juste derrière, je vous poserai la question suivante. Quel est l'intérêt, justement, d'une publication, d'une republication d'un tel livre, selon vous? Voilà, y a-t-il un intérêt? Y a-t-il une urgence? Quel est cet intérêt-là? Si ça vous va comme question pour commencer. Mais juste avant cela, si vous êtes d'accord, on y va avec un petit extrait d'André Bezigre à la technique. Donc ce serait le B1. On y va comme ça, c'est 2 minutes 30 où on entend la voix d'André Bezigre qui se situe un petit peu, qui se présente lui-même d'ailleurs. Allez, c'est parti.
Ah oui, j'étais un rebelle toute ma vie. Toute ma vie.
Je suis né dans un petit village du Jura. Du Jura bernois, à l'époque il n'y avait pas encore de canton du Jura. Et j'ai vécu là avec mes parents jusqu'à l'âge de 15 ans.
J'avais déjà l'esprit ailleurs, je voulais foutre le camp à Genève. Ah, puis pour moi, Genève, c'était comme tu parles de Paris, tu vois. Alors pour moi, c'était un événement sensationnel. Aller à Genève, c'était tout pour moi. Alors Genève, je pensais que c'était le paradis. Je pensais que là, il y aurait tout de suite pour moi quelque chose de sensationnel à ma vision. Et je suis arrivé avec une misère dans tous les coins de rue. C'était celui qui allait vendre aussi des attaches souillées comme dans mon pays, et même pire. Et il y avait même les gens qui tendaient la main. Alors pour moi, ça m'a un peu défrisé. Et comme les difficultés de trouver du travail à l'époque, il y avait 10 000 chômeurs à Genève, eh bien j'ai dû faire le bras pendant, comme beaucoup, on était plus de 200 à faire les bras pendants, ce qui voulait dire que l'on attendait pour décharger les wagons sur des camions pour les transporteurs et que l'on faisait une heure pour un, une heure pour l'autre, qui nous donnait suffisamment d'argent pour aller casser la croûte. Et la nuit, eh bien, tout le monde cherchait un endroit pour aller coucher. On allait coucher dans les wagons de chemin de fer. Et si c'était en hiver, eh bien, sur des oranges gelées, sur du matériel gelé. Et de temps à autre, il y avait des descentes de gendarmes. Et nous devions foutre le camp de chaque côté pour ne pas être pris. Et sur ce plan-là, même que ça a duré 3-4 mois, eh bien, je n'ai jamais été pris. J'ai toujours réussi à passer entre les filets des gendarmes qui essayaient de nous ramasser. Au mois de mars, j'ai trouvé un emploi comme manœuvre dans le bâtiment et j'ai rencontré tout de suite des copains solidaires qui étaient des Italiens. Et ces Italiens étaient divisés tout de suite en deux camps, les fascistes et les antifascistes. Parce qu'il y avait les saisonniers qui venaient envoyés par Mussolini et il y avait les antifascistes qui étaient des gens qui s'étaient sauvés de l'Italie à cause du fascisme et qui étaient ici comme antifascistes. Donc, qui étaient...
Alors, voilà le terme de ce premier extrait. Donc, on entend André Beuziger dire un peu d'où il vient. Et puis voilà, tout de suite, cette lutte, ce combat antifasciste, qui surgit dans sa vie au travers de son travail. Alors, y a-t-il peut-être une analogie à faire avec l'urgence d'une telle réédition, Souvenir d'un rebelle d'André Beuziger? Est-ce que c'est un livre urgent, nécessaire, en ces temps où justement on voit bien que nous traversons une période délicate, trouble, avec bien évidemment un surgissement des extrémismes de droite, notamment la bande Assorale par ici, qui est venue et qui était repoussée d'une certaine manière, en tout cas de Genève. C'est-à-dire qu'il y a une action antifasciste, en tout cas, qui a cours à Genève. Alors, voilà, cette première question, c'est pour vous, ce livre, quelle est son utilité, quelle est son urgence? Je ne sais pas qui c'est qui veut commencer à répondre à cela.
Par rapport à l'antifascisme, on en a pas mal discuté avec lui, parce que j'étais jeune étudiant et lui, il m'a permis de... Moi, je recherchais du boulot, donc il m'a permis de bosser parce que lui, il avait des chantiers de peinture. Il faisait sur le tard, il avait maçon, c'était trop dur, donc il s'était mis à son compte d'abord comme maçon et après, il faisait de la barbouille. Et puis, donc, il a pris des chantiers un peu en plus pour me faire bosser. Et à cette occasion, on a discuté aussi, parce qu'à l'époque, c'était aussi les skinheads, il y avait le National Front en Angleterre, il y avait donc la montée du fascisme pour nous, c'était, oui, il y avait le Front National qui commençait en France, et les skins qui commençaient vraiment à devenir inquiétants, à tabasser les punks et tout ça. Donc... Mais lui, quand on lui parlait de ça, il rigolait. Il disait, mais pour vraiment que ça bouge, il en faudrait 10 fois plus des fascistes, il disait. Donc, et puis, il était très critique vis-à-vis de l'antifascisme. Il disait que ça avait vraiment été un piège pour tout le mouvement, parce que c'était une collaboration avec des courants qui étaient fascistes rouges. Pour lui, il était très critique contre tous les mouvements, ceux qu'il appelait les bolcheviks, c'est-à-dire tous les socialistes et communistes autoritaires. Lui, il se définissait comme communiste libertaire, mais anarchiste, plus anarchiste que libertaire, mais il était très critique sur s'allier avec des bourgeois ou des autoritaires pour lutter contre le fascisme. Pour lui, c'était un piège.
Ouais. Concernant justement son approche du mouvement anarchiste libertaire à Genève, peut-on dire qu'il avait, y a-t-il des caractéristiques qui surgissent à votre esprit, à vos souvenirs par rapport à André Boziguer? Est-ce qu'il avait voilà, une certaine manière de faire qui était un petit peu singulière? Est-ce qu'il était plus dans une espèce de, d'action, dans des actions collectives, ou est-ce qu'il avait quand même un côté individualiste très prononcé? Ricardo?
Ouais, je reviendrai sur ta question tout à l'heure, sur l'actualité de ce bouquin.
Mm-hmm.
Les gens, enfin, dont je suis, dont nous sommes tous, on a un peu la mémoire courte. Bon, quand on a mon âge, nos âges, forcément, on a beaucoup plus vécu que quelqu'un qui a 20 ans, donc on se souvient de choses. Mais des choses qui nous semblaient évidentes à un moment donné ne le sont plus. Par exemple, moi, j'avais un père résistant et l'idée de plus jamais ça, c'était une évidence. Puisque la lutte contre le fascisme, le nazisme, c'était quelque chose d'immense. C'est une période de l'histoire du XXe siècle qui a amené beaucoup de souffrances. Et au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il était évident pour des gens de notre génération qui sont venus tout de suite après la guerre, hein, qu'on n'aurait plus jamais ça. Or, en Italie, ce que le fascisme a pondu de plus actuel, hein, donc des partis qui ne s'appellent plus partis fascistes, mais qui sont issus de cette, qui sont la continuité de ce mouvement-là, ben, ils ont même été au pouvoir, hein, donc avec Berlusconi. En France, Marine Le Pen fait, je crois, 29% aux dernières nouvelles, donc... Voilà, puis maintenant, Viktor Orban en Hongrie, ces gens-là deviennent Erdogan. Fréquentables.
Erdogan,
voilà. Ces gens-là deviennent fréquentables, alors qu'il y a peut-être encore 20 ans, il était exclu que l'on puisse prétendre que ces gens-là l'étaient. Aujourd'hui, ils le sont redevenus. Donc il y a quelque chose d'important, je ne sais pas si on peut dire urgent, mais... que des livres comme celui-là, qui témoignent d'une époque et d'une opposition à tout ça, soient remis d'actualité, parce qu'il y a une mémoire à retrouver, une mémoire à transmettre.
Absolument. Quelqu'un veut compléter ce que vient de dire Ricardo? Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour nous, on a cette impression-là. Nous sommes ici en direct depuis la Bibliothèque du Peuple, dont le rôle est exactement celui-là également, de remettre au jour, justement, des courants d'idées, et puis surtout de refabriquer un esprit critique dont on voit qu'il est de plus en plus latent. Et effectivement, c'est un bouquin qui contribue de cela.
J'aimerais reprendre ce que disait Daniel tout à l'heure par rapport à ce que André disait des alternatifs, c'est-à-dire bon, on aimait bien chamailler comme ça. D'ailleurs, quand on voulait faire mousser André, on lui parlait des curés ou des communistes, et il devenait tout rouge et il commençait à gueuler sur les bolcheviks. Donc ça faisait partie du petit jeu auquel nous, qui étions beaucoup plus jeunes que lui, auquel on aimait se livrer. Bon, mais cela dit, je ne sais pas...
Vous faisiez tourner en bourrique comme ça.
Nous faisait tourner en bourrique, hein. Nous, donc ça faisait partie du jeu. On avait quand même un sacré décalage de... Moi, je suis né en 53, donc je suis né 40 ans plus tard. Quoi. Ça, 40 ans, ça fait un paquet. Hein. Bon, mais ce qui est intéressant, moi, je me souviens qu'on se réunissait un temps, là, donc le groupe anarchiste, on se réunissait dans les années 80 au squat de la rue Argan. Et donc, il y avait André, et il y avait un personnage dont il faut absolument parler, parce que c'est quelqu'un que beaucoup de jeunes voient, vont repérer, parce qu'il a disparu il n'y a pas longtemps. C'était le grand Gaspard, qui faisait dans les 2 mètres les photos des années 30, les manifestations anarchistes. On le voit toujours, parce qu'il fait, sa tête dépasse celle des autres. Donc on le
toujours
voit
habillé en bleu, avec la casquette bleue,
voilà.
En bleu de travail.
En bleu de travail, toute sa vie. Et lui, donc, Gaspard venait aussi aux réunions. Et Gaspard passait toujours par la fenêtre de gens qui squattaient au rez-de-chaussée. Donc, il ne voulait pas passer par la porte blindée.
Non, la porte était blindée et fermée. Donc, lui, il avait ses entrées. Il cognait à l'appartement. Et voilà. Il se faisait ouvrir par les fenêtres.
Ouais. Et on se retrouvait au lieu où on se réunissait. Gaspard arrivait, nous, par la porte, et lui, par la fenêtre. André, je pense qu'il aurait eu de la peine à passer par la fenêtre parce qu'il était plutôt trapu. Et donc, ce qui est intéressant, de mes souvenirs de l'époque, mais après, j'aimerais bien qu'Ivar et Daniel se prononcent là-dessus, mais ils avaient beaucoup de sympathie dans le monde squat, c'est-à-dire qu'ils sympathisaient beaucoup pour ça. Le qui avait lutté notamment ben, André avec la LAB pour la démolition des taudis de la rue Cornavin. Le squat était une sorte de continuité de cette histoire-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux avaient connu Bertoni, qui lui avait connu Kropotkin. Il a aussi connu Mussolini, mais c'est à l'époque où il faisait croire qu'il était de gauche. Enfin, bref, il y a toute une histoire comme ça qui se passe des uns aux autres, et il y a une continuité. Moi, j'aime voir ça comme ça, entre la lutte pour le relogement des gens dans des conditions dignes d'être humain dans les années 30, jusqu'au mouvement squat des années 80, 90, enfin, jusqu'à quand ça a duré, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Il y a
une continuité là-dedans.
Oui, tout à fait. Là, c'est important, la transmission de la mémoire, et notamment des luttes, y compris les luttes pacifistes qu'il a menées. Par exemple, en tant que maçon, il a été sur un chantier de l'armée pour construire les fameux Toblerones dans la région de Nyon-Glan. Et l'armée les payait même moins que la moitié du tarif convenu.
Donc c'était à la mobilisation.
À la mobilisation.
Ouais. Et puis juste et
André Beziger a réussi à monter une grève qui a réussi. Donc ils ont obtenu le tarif syndical à la fin.
Ouais, donc voilà des grèves victorieuses. Juste, on va préciser, les Toblerones, ce sont ces structures en béton.
Ouais.
En t-shirt.
Voilà, en t-shirt. Voilà, donc gros volume quand même, un peu en forme en triangle.
Alors,
et à cette occasion-là, ils ont juste une anecdote, c'est qu'ils faisaient aussi des casemates en béton. Et ils ont obtenu leur truc aussi avec du sabotage, puisqu'ils sabotaient les casemates en béton en mettant du sel dans le béton, ce qui faisait que les casemates se tombaient en ruine aussitôt construites, quoi.
Alors, Ricardo, tout à l'heure, tu parlais du relogement, qui est effectivement une lutte centrale dans le parcours d'André Beziger. Est-ce que l'on peut dire que ces luttes du passé, celles qui ont parcouru le cheminement d'André Beziger et d'une certaine manière aussi un petit peu les vôtres, contiennent-elles les luttes d'aujourd'hui, justement ? Est-ce qu'elles préfigurent ? Est-ce que déjà à l'époque, on pouvait deviner d'une certaine manière ce vers quoi on allait, victime de cette espèce de capitalisme rampant qui allait de plus en plus à coups de vagues, démanteler le mouvement anarchiste, démanteler plein de choses comme ça. La question d'après, ce serait de revenir effectivement sur, j'aimerais vos observations également concernant la filiation justement d'André Beziger, si selon vous il y en a actuellement, et puis le mouvement libertaire anarchiste à Genève en particulier. Mais on viendra là-dessus plus tard. Pour commencer, est-ce que...
Ça fait plusieurs questions.
Hein. Oui, justement. Je suis allé d'un coup.
Juste par rapport à la première, je trouve on est dans une époque, globalement au niveau mondial, on peut dire de montée du fascisme. C'est-à-dire montée de... C'est-à-dire le capitalisme pour se... C'est la dernière forme de capitalisme... de survie, de guerre, qui est la forme étatique qui est en train de se mettre en place. Parce que l'Empire américain est en train de basculer, et la domination, ça va être les Chinois qui vont être dominants au niveau économique. Donc la seule chose qui leur reste, c'est la force militaire. Et un Trump comme ça va essayer d'utiliser au niveau stratégique jusqu'au bout la force militaire. Donc il y a c'est assez préoccupant, et il y a des risques quand on voit que Erdogan, il part sur une stratégie exactement la même que Hitler. C'est un grand admirateur d'Hitler, il fait exactement la même chose, et les démocraties occidentales font exactement la même chose qu'elles ont fait en 36, enfin dans les années 30, c'est-à-dire de fermer leur gueule et de lécher le cul à Hitler. Que là maintenant c'est Erdogan, c'est-à-dire il n'y a aucune résistance, il n'y a aucune consistance, et c'est hyper préoccupant. C'est-à-dire on est en train de rejouer au Rojava dans Syrie, c'est en train de se rejouer ce qui s'est passé en 36 en Espagne, et si les si on lâche les expériences libertaires, autogestionnaires, etc., en Syrie, à mon avis, on va vers une vers quelque chose. Bon, je ne vais pas dire une troisième guerre mondiale, mais ça va y ressembler, quoi. Mmh.
Quelqu'un veut compléter ?
Ben, c'est la troisième guerre mondiale n'est pas exclue, parce que ce que dit Chomsky dernièrement, c'est que ce qu'il y a le plus à craindre encore davantage que Trump, c'est qu'il y a ce surarmement qui a lieu en ce moment et des tensions de plus en plus fortes dans des régions du globe, et il y a de quoi se faire du souci. Sur la question de la disparition du mouvement anarchiste, je pense qu'il n'a jamais... Il ne peut pas disparaître, puisque c'est un mouvement rhizomatique, c'est-à-dire il y a des racines souterraines qui se... Il y a un jardinier, donc je pense qu'il ferait mieux, lui, de parler de rhizome, peut-être que je vais dire des conneries.
C'est très juste.
Et de temps en temps, il y a quelque chose qui bourgeonne quelque part, il y a une résurgence. Et
on pourrait parler de mycélium et de champignons.
Voilà, les champignons, j'aime bien ça. C'est avec un bon risotto, c'est super.
Oui, mais alors, justement, des résurgences, certes, mais ne sont-elles pas de plus en plus compliquées ? Ne sont-elles pas de plus invisibilisées ? On voit bien qu'il y a une montée vraiment également d'une extension de la criminalisation des mouvements sociaux, qu'il y a une répression. Là, on voit par exemple avec la violence policière qui touche à des fêtes en France. Est-ce que ce n'est pas de plus en plus compliqué ? Et selon vous, justement, mouvement...
La répression nourrit, la répression nourrit les mouvements.
Ouais, donc. Oui.
Attention, l'intellectuel le plus lu au monde, celui qui est le plus... qui intéresse beaucoup de monde, enfin, il y a tout un tas d'indicateurs intéressants, c'est Noam Chomsky, qui est ouvertement anarchiste et qui est membre de l'IWW, et donc je pense que parler de disparition, parce qu'avec un type que, quand il est venu à Genève, il a fallu ouvrir plusieurs auditoires, il était projeté par écran, parce qu'on ne pouvait pas tenir tout le monde dans la salle où il était prévu, enfin, il y a quand même quelque chose d'assez gigantesque, quoi. Voilà. Il y a le film qui a été fait par Mermet et compagnie, là, Chomsky et compagnie, justement, qui montre l'ampleur de non pas de ce que Chomsky fait seulement, mais de tout ce qu'il peut réveiller comme monde autour de ce qu'il fait. Howard Zinn, qui est disparu il n'y a pas longtemps aux États-Unis, nous montre qu'il y a une autre Amérique que nous connaissons mal, hein, et qui est une Amérique libertaire et qui est là depuis très longtemps.
Il y a aussi les travaux de Graeber et puis le Occupy Wall Street et tout ça. Tous ces mouvements sont connectés. Puis,
voilà. Au Canada également, hein, Dupuy-Déry, ouais, on pourrait citer.
Ouais, on est loin de la disparition.
Ouais, en fait, à l'inverse, on voit qu'il y a une sorte de vigueur. Alors est-ce que c'est justement, ça correspond selon vous à cette répression, cette montée des répressions?
Oui, c'est un moment où tout le monde s'aperçoit que le roi est nu, c'est-à-dire tous les clivages, tous les... Le système se montre sous une forme... le spectacle ne suffit plus à cacher le côté sombre du système, quoi. Tout saute à la gueule. C'est-à-dire, il suffit de réfléchir un petit peu, puis on voit les ficelles, les grosses ficelles et le gros fil blanc. Donc, il y a une prise de conscience globale, malgré la propagande et malgré l'abrutissement, les moyens d'abrutissement industriel. Donc, je pense que c'est une époque où on peut parler à n'importe qui et tout le monde a ses mêmes idées dans la tête. C'est vraiment très, très large. Je veux dire, pour moi, les histoires politiques, c'est du spectacle. Mais le fond, les gens, les idées, elles passent. C'est une époque formidable, moi, je pense, au niveau des idées.
Ouais, je pense aussi qu'il y a une remontée depuis quelques années. Et maintenant, je trouve que c'est visible à Genève après effectivement une période de creux, quoi. Pendant longtemps, c'était plutôt une sorte de mouvance un peu informelle. C'est-à-dire que maintenant, on sent qu'il y a une vraie attente de quelque chose de plus construit, de plus comme réponse à la situation actuelle, parce qu'il y a une perte de confiance aussi dans le système politique actuel.
Et alors, pardon, Ricardo.
Alors, ce qui change par rapport à André, pour revenir à André,
oui,
c'est que André était, mais je pense que je le suis aussi, et que mes camarades le sont aussi, enfin, des hommes de foi. On a une conviction, on y croit dur comme fer, et puis voilà. Et c'est cette croyance profonde qui fait qu'on ne bouge pas, on ne lâche pas sur certaines choses. Alors que d'autres ont fini par mettre beaucoup d'eau dans leur vin, voilà, et à la fin ça n'a plus aucun goût. Aujourd'hui il y a besoin peut-être de plus de comprendre ce qui se passe, de plus être par exemple dans une perspective possible, c'est-à-dire que on se dit bon, l'anarchie, une société sans État, sans argent, sans armes, sans armée, etc. C'est bien beau, mais bon, est-ce que c'est faisable? Et tout à coup, on est sommé de dire est-ce que ce qu'on envisage est quelque chose de sensé, d'accord? Alors que bah, quand j'étais jeune, on était anarch et on n'avait aucun doute que le monde allait en direction de ce rêve-là. Aujourd'hui, il me semble que c'est plus difficile que la foi dans cette histoire suffise. Donc il y a une tendance à dire, bon, qu'est-ce qu'on fait et vers quoi on va concrètement. Alors, il y a des propositions comme le municipalisme libertaire de Bookchin, des choses comme ça, qui rendent beaucoup plus concrètes ces choses-là, elles les rendent possibles dans un avenir proche, voire dans aujourd'hui, à certains endroits. Alors,
concrètement, Daniel ?
Oui, moi, je ne suis pas un homme de foi et je ne suis pas.
Je savais qu'il allait réagir.
Et non, la seule foi que j'ai, c'est dans la vie, quoi. Et ça ça rompt avec aussi un côté nihiliste qu'on peut retrouver parfois chez les anars. Donc, effectivement, moi, la seule foi que j'ai, c'est dans la vie. Mais pour en revenir à ce côté, non, moi je pense que la pensée, l'idéologie, c'est la pensée morte. Et ça, il y a une idéologie anarchiste et moi je ne me reconnais pas dedans. Donc pour moi, je suis pour la pensée vivante qu'on élabore au fur et à mesure. Et l'écologie sociale, c'est pour moi, c'est actuellement ce qui peut rassembler aussi le confédéralisme démocratique de Öcalan, l'écologie sociale de Bookchin, que moi j'ai lu quand j'avais 17 ans en 77. Et c'est des idées qui sont vraiment actuellement pour arriver à mettre une société anarchiste dans le sens de sans État et sans argent, etc., comme tu disais tout à l'heure. Voilà.
Et alors justement, ce recueil, est-ce là également, parce que là on a effectivement entendu le jardinier parler, le jardinier de la vie, hein, qui ensemence. Alors y a-t-il, selon vous, une perspective, enfin ce livre-là, sa parution, fait-elle partie d'un ensemencement justement des esprits, des personnes qui ne connaîtraient peut-être pas encore, parce que finalement l'aventure de la vie d'André Bezigel est certainement pas assez connue, elle n'est certainement pas enseignée à l'école, j'imagine, et elle aurait tout intérêt justement à l'être pour en revenir à se réalimenter et à, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, opérer ce rhizome avec ses surgissements, Ricardo. Oui.
Mais à condition que, parce que attention, hein, il y a... toute la sympathie qu'on peut avoir, que je peux avoir pour André Bezigel, ne doit pas nous faire oublier que nous avons par choix, nous n'avons pas de héros, d'accord. Nous n'avons pas de Yuri Gagarin qui ferait que nos enfants s'appelleraient Yuri comme nos camarades bolcheviks, comme disait André. On ne tient pas à ces choses-là du tout. Moi, je serais même pour qu'on se dise pas de héros. Et il y a un chantier récent dans le mouvement anarchiste que j'aime bien, qui est un chantier, une reprise hein, d'anciens thèmes, mais qui est le refus de parvenir, qui est l'idée que si on veut une société horizontale, il faut combattre la tentation comme ça narcissique hein, de d'être sur le devant de la scène et de oui et de vouloir être plus beau que les autres. Donc il y a André, mais je parlais tout à l'heure de Gaspard, qui s'appelait pas Gaspard du tout.
Il y avait Gentile.
Il y avait Gentile, qui était.
Il y avait Georges Epron.
Il y avait Georges Epron qui est disparu il y a pas longtemps.
Il n'y a pas longtemps, effectivement. Ouais. Ouais, tout à fait.
Il y avait plein de gens.
Gentile, donc il y avait le grand Gaspard qui faisait 2 mètres et Gentile, il faisait 1 m40. Ouais. Il était tailleur tessinois. Il avait 91 ans quand il venait dans les squats aux Réunions. Et donc, lui, il avait connu Malatesta. Donc c'est vrai, il connaissait, ouais. Enfin, c'était, il était du 19e siècle encore. Il était né, il avait vécu 20 ans dans le 19e, enfin un truc incroyable.
Il y a des gens bien vivants encore.
Hein. Et oui.
Il y a nous tous qui sommes.
Dont vous êtes. Mais voilà, en tout cas, dont nous sommes.
Pour revenir à André Bezigre, ouais. Lui, toute sa vie de militant, il s'est jamais mis en avant. Il a toujours été semi-clando, toujours de et donc il a fait beaucoup de d'actions directes, on va dire, mais il travaillait donc avec le lab, ils ont fait collectivement, mais tout ce qu'il faisait après, il disait moi je travaille toujours seul. Donc ça c'est un conseil à ceux qui veulent suivre sa trace.
Vous avez le mot squat est beaucoup réapparu dans ce que vous avez dit. On connaît la situation des squats en Suisse et particulièrement à Genève. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a plus de squats. Ça veut dire que les occasions. André Bezigre aujourd'hui, vous-même, où vous seriez-vous rencontré aujourd'hui? Puisqu'il a beaucoup, vous l'avez dit, fréquenté les réunions dans les squats.
Disons, on l'a connu aussi avant les squats.
Oui, non, j'entends bien, ouais. Mais c'était pour dire, voilà, il y a dans la contemporanéité de cette lutte, il y a effectivement des nouvelles données qui sont là. Mmh. Et quand je parlais justement de répression, c'est également la disparition de certaines. Quand on parlait de rhizomes, certes, mais effectivement, moins il y a de lieux où ces rhizomes peuvent surgir. C'est une stratégie également que de balayer les lieux pour que ne surgissent plus ces occasions de la rencontre. Alors là, certainement qu'à travers le livre, la rencontre se perd, bien entendu, parce que dans la lecture, elle se perd. Mais est-ce qu'il n'y manque pas quelque chose? Et ce quelque chose serait la rencontre physique des personnes qui peuvent s'organiser. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose, justement, un défi qui surgit au devant de nos luttes?
Oui, parce que je pense que la rencontre se fait beaucoup à travers les médias sociaux aujourd'hui, donc la rencontre directe, physique.
Oui. Immédiatiste, comme dirait, comme dirait l'autre. Oui, mais c'est hyper important. Ça me rappelle juste une chose, c'est que lui, comme maçon, comme patron maçon, c'est-à-dire lui, il était à son compte et il organisait, il donnait beaucoup d'argent pour le CIRA, et il organisait des lotos. Les week-ends, à droite, à gauche, il organisait des lotos pour financer le CIRA. Donc le CIRA lui doit beaucoup. Ouais. Je pense que sans André Bezigre, c'est pas sûr que le CIRA ait continué à exister.
Oui, mais pour parler des vivants, sans Marianne Henkel non plus, parce que...
bien sûr.
Oui, c'est très important de le dire. Oui.
Mais complètement,
Marianne, c'est l'âme du CIRA depuis d'innombrables années.
Et Marie-Christine, et beaucoup, sa mère. Et voilà.
Ouais, absolument. Ouais. Je vous propose qu'on écoute encore un tout petit moment la voix d'André Bezigre, parce que je voulais raisonner sur les évacuations dont tu as parlé tout à l'heure, Ricardo, qu'on raisonne par rapport à ça, justement en lien de ce qu'on vient de dire, les squats, toutes ces choses-là, et de la violence. La violence était légitime ou pas. On va écouter André Bezigre nous parler de ça. Et ce serait, alors là, c'est pour la tech, donc ce serait la petite intervention qui est notée B3, s'il vous plaît.
Et nous avons décidé que toutes les évacuations qui pourraient y avoir d'appartements de gens qui ne pourraient plus payer leur loyer, nous, on interviendrait sur les lieux le jour et la date où ils seraient poursuivis et où les camions viendraient pour charger leurs meubles pour les évacuer. Et on leur retournait le camion, ou on a même retourné des camions dans le Rhône et des camions sans dessus-dessous. Et ça a duré pendant environ 3 ou 4 mois comme ça. Ensuite, les autorités ont compris que ça devenait très dangereux parce que on était applaudi par la population qui était contre ces évacuations. Et alors, ça a donné, dans l'esprit des Genevois, une bonne renommée pour les Labbé.
Mais c'était plutôt une renommée de violence, ça.
C'était une renommée de violence, mais qui était très comprise par les pauvres diables d'ici Genève, qui étaient dans des situations financières très, très précaires.
Et à 30 personnes, vous arriviez quand même à vous faire entendre ?
Non seulement on arrivait à se faire entendre, mais partout où nous sommes passés, s'il était indispensable de faire du sabotage, on faisait du sabotage. S'il était indispensable d'utiliser la force, on utilisait la force. Et jamais, ni les gendarmes, ni rien nous a arrêtés pour essayer de faire respecter les droits des travailleurs.
Sur les deux tiers